Re-bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma de la province de Québec. L'épisode qui est mi-voyeur de vue, qui est mi-vue de bonhomme, vu notre sujet principal de cette semaine.
Ça pourrait être voyeur de vue de bonhomme.
C'est voyeur de vue de bonhomme. La voix que vous venez d'entendre est celle de mon ami et co-animateur de OK Bébé, William Barbeau. William, comment vas-tu?
Super bien, je suis content de faire partie des OK Bébé Boys là, à temps plein maintenant, fait que tant mieux. Fait que, ouais, ben, je suis content de faire un podcast de Batman, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait
que, ben, oui, parce que aussi, William, tu es tout de même un consommateur assez puissant de cinéma. Fait que j'imagine que tu as moult opinions sur ce qu'on a à dire pour ce film-là. Avant de commencer, avant de continuer, je vais me présenter davantage, bien sûr. Ceux qui n'écouteraient pas habituellement, moi, c'est Yannick Belzile, animateur, le voyeur de vue, titulaire de ce podcast. Cette semaine, c'est ça, j'ai vu quelques films. Alors, on va y aller un peu avec la mouture traditionnelle des voyeurs de vue. Alors, je vais vous parler de quelques films avant qu'on passe à notre film titre pour cette semaine, qui est bien sûr The Batman, le film de 2022, réalisé par Matt Reeves. Je vais commencer avec un film que j'ai vu ce week-end, durant mon week-end anniversaire, qui est reconnu comme un des meilleurs films de 2021, un des grands films de 2021. Et ma foi, j'ai trouvé ça très, très bon. Alors, j'abonde dans le sens. Je suis allé au cinéma du parc pour voir The Worst Person in the World, réalisé par Joachim Trier et écrit par Eskil Vogt et Joachim Trier. Ça fait partie de ce que, pour Joachim Trier, c'est comme ça, le troisième film de sa trilogie de Oslo, de films qui se passent à Oslo, et qui met en vedette Renate Reinsvein, qui a eu le César de la meilleure actrice à Cannes pour son interprétation dans ce film-là. Puis le film en tant que tel est nominé aux Oscars pour meilleur film étranger et pour meilleur scénario.
Nice.
Ouais, c'est tout de même. En fait, ce que moi je trouve intéressant de ce film-là, puis ça va aller un peu dans la description de ce qui se passe, de l'intrigue, c'est que on dirait que c'est pas grand-chose en tant que tel, mais ça, c'est des affaires très humaines. Fait que là, la clé, puis l'aisance, puis le skill, c'est comment c'est démontré puis c'est développé à travers un film. Fait que, le film est une comédie romantique essentiellement où on suit Julie qui est une jeune femme qui approche la trentaine puis dont sa vie est un petit peu chaotique puis elle ignore où elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle aime vraiment et comment se placer dans quelle carrière ou dans ses passions. Puis elle se cherche à travers ça et à travers les relations qu'elle a dans sa vie, que ce soit un peu avec ses parents ou avec différents hommes qu'elle côtoie. Et elle se cherche. Puis le film, c'est essentiellement ça. Il est séparé comme en 12 chapitres, ainsi qu'un prologue et un épilogue, qui permet comme au film, mettons, d'aborder plusieurs thèmes, des affaires qui sont plus larges, sociétales, puis des trucs qui sont vraiment émotionnels. Si vous avez vu, mettons, les films récents de Noah Baumbach, dont ceux que Greta Gerwig est dedans, comme Frances Ha, c'est pas une proposition qui va vraiment vous surprendre. Mais ce qui est vraiment cool dans ce film-là, je te dirais qu'il y a deux affaires qui sont vraiment bonnes. C'est que justement, Julie se promène en différentes relations avec différents chums ou des amis de ses chums ou ses propres parents. Puis ça permet comme pour les scénaristes et le réalisateur de parler de différents aspects de la vie de jeune trentaine, qu'elle a un chum qui, lui, qui est le début de la quarantaine. Fait que là, lui, il parle de sa vie, de comment que sa jeunesse est différente de sa vie maintenant. Il y a des aspects qui sont... je relate un peu à un de ses chums qui est un BDS dans la quarantaine.
c'est sûr que là...
ça vient à mon target en motadine, mais il y a une scène où il parle un peu de l'art, de se faire canceller, puis des affaires comme ça, qui est un petit peu boiteux, mais le reste, il parle du monde de sa jeunesse qui n'existe plus, puis comment qu'elle essaie de se trouver à travers de ça. Et bref, il y a des affaires qui sont vraiment comme émotionnellement dead dans le center des conversations que tu te demandais pourquoi tu n'as pas encore d'enfant, qu'est-ce que tu fais avec ta vie, toutes ces affaires-là.
Y a-t-il mettons, thème central où c'est juste comme plein de chunks que ça fait comme quasiment genre The 22 short films about Springfield, là, shit de même, là, que genre, t'as comme plusieurs, tu sais, t'as plusieurs comme thèmes, puis ça construit un tout qui est comme ce film-là, mettons.
Oui, oui, c'est pas mal ça. Tu sais, puis, tu sais, au début, j'étais comme, ah, OK, comment que tout ça se connecte? Mais m'a dit comment tout ça se connecte, et c'est la deuxième affaire, à mon avis, puis qui est le plus important de ce film-là, c'est l'interprétation de Renate Rensvei, qui est charismatique, que c'est pas possible. Elle fait tout le temps des choix chaotiques, elle se promène dans différentes sphères de sa vie, puis tu te sens tellement impliqué, puis t'es tellement de son bord, elle est tellement charmante. Elle est une actrice que je pense qu'après ça, elle risque de popper à l'international ou dans des films américains qui vont essayer de la pogner pour, tu sais, comme faire des rôles plus ou moins ingrat, dépendant de la qualité du blockbuster que ça va être dedans.
C'est le genre de Anna de Armas, là, genre qu'elle va juste comme être sur 15 minutes dans Fake Shit. Là.
Ben, ça se pourrait que ce soit ça. Et plus, tu sais, Anna de Armas, tu sais, est pratiquement une genre de elle a quelque chose de poupée-esque qui est incroyable. Renate Rensvei a plus l'air d'une personne, d'une super belle personne que tu rencontrerais dans la rue, mettons. Mais, fait que, tu sais, il y a une scène dans le film où elle rencontre un inconnu dans un party qu'elle va crasher elle-même ou qu'elle n'a pas rapport. Et puis, les deux, elle a un chum pendant ce temps-là, puis le gentleman une blonde pendant ce temps-là. Et les deux flirtent constamment et font plein d'affaires qui sont comme, hey, si je te sens les aisselles, c'est-tu comme si on trompait comme nos douces moitiés, comme non. Fait que ils font ça. Puis là, ils font plein d'affaires comme vraiment intimes. Et tout ça, c'est très comme sexy et charmant. Mais je trouve que comme le film en entier est comme cette scène-là, mais avec elle puis nous dans l'auditoire, que tu la suis puis ça devient vraiment intime. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis c'est une façon comme moderne et non cliché de faire une comédie romantique où un personnage se trouve, qu'est-ce qui va arriver justement avec son couple et son identité. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Je le recommande. Toi, William, est-ce que tu as quelque chose que tu as vu cette semaine ou tout de même récemment dont tu voudrais nous parler?
Moi, j'ai vraiment moins écouté des affaires de la semaine. Là, j'ai vraiment moins écouté des affaires qui ont été césarisées ou oscarisées. J'ai écouté plus de TV, mettons, que de films dernière semaine.
Aucun jugement. Hey, c'est bonne affaire, là, c'est que les voyeurs de vue, là, on se passe pas au-dessus de quoi que ce soit. On regarde tout au voyeur de vue.
Mais un film que j'ai essayé d'écouter, puis là, je veux que ce soit clair, là, je dis rien contre ce film-là parce que je considère pas que je l'ai vu. Okay? J'avais vraiment bu beaucoup de Busch Ice. Puis c'est ça. Puis, tu sais, moi, une affaire qui a pas été statuée encore dans le voyeur de vue verse, c'est que j'ai vraiment trop de films à la maison. Là. J'ai genre 1500 Blu-ray. Tu sais, j'en ai une chier, OK? Fait que j'en ai beaucoup là-dedans que j'ai pas vu, puis que je sais que je vais les écouter un moment donné, mais c'est juste quand est-ce va être le timing de les écouter. Fait que j'avais bu vraiment beaucoup de Busch Ice, puis là, je cherchais un film en dessous de 2 heures, et là, je sors Mandy avec
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, exactement. Et je dirais que Busch Ice et Mandy vont pas très bien ensemble parce que c'est comme un genre de trip psychédélique fucked up dans le bois. Puis après 45 minutes, j'ai fait, tu sais quoi, je vais redonner une chance une autre fois parce que aujourd'hui, ça se donnera pas. Parce que Bière Cheap et Mandy font pas bon voyage ensemble. Fait que Ça a été ça ma dernière expérience d'essayer d'écouter un film à maison parce que, autrement, mettons, les derniers films que j'ai vus au cinéma, c'est genre Uncharted, que je venais parler il y a une couple de semaines, toi, Pierre-Luc.
Oui. Tu peux offrir tes opinions sur Uncharted si tu veux. Là. C'est pas interdit. Si tu veux faire 5 minutes.
Parce que moi, j'ai vu Uncharted, puis je dois dire, j'ai pas trouvé ça particulièrement terrible. C'était pas vraiment bon non plus. Là. C'était un genre de. Le film, c'est une excuse pour juste faire des set pieces qu'il y a dans le jeu vidéo, là, essentiellement. Fait que à ce niveau-là, je trouvais qu'au moins c'était comme le fun, mais c'est vraiment bizarre. Déjà, là, Quand tu vas voir un film au cinéma, puis au début du film, il y a le logo PlayStation Productions, c'était comme oh shit, là. We're in for a ride. Là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si ça va être la dernière fois que je vais voir ça de ma vie, sûrement pas, parce qu'ils vont sûrement faire Uncharted 2. Là. Mais,
ben, ça va probablement apparaître au début de probablement de la première du show de Last of Us sur HBO aussi.
Ah oui, là, c'est vrai, c'est vrai.
Comme ça, d'ailleurs, ça, je vais dire, c'est la même chose que des fois avec des films de DC. Dans la marquise de PlayStation Production, tu vois le Nathan Drake des jeux qui est tout de même un gros monsieur baraqué. Et là, immédiatement, j'ai comme « Oh, Tom Holland ne ressemble pas à ça. »
Non.
Comment
ça? Mais tu sais, j'avais aucune relation avec les jeux d'Uncharted. Puis tu sais, là, on a parlé hier comment ça t'avait donné le goût de jouer à ces jeux-là quand même. Là, puis moi aussi, j'ai une PS4 depuis comme récemment, puis j'ai essayé les Uncharted. Puis ça... Les jeux de PS4, j'en ai moins que des Blu-ray, mettons, là, mais ça aussi, je le mets comme une pile. Puis, j'étais pas inintéressé à peut-être essayer de jouer au jeu. Là. Fait que, à ce niveau-là, peut-être que le film il a réussi. Il m'a donné le goût de jouer au jeu d'Uncharted. Mais c'était pas un excellent film, mais tu sais, il fonctionnait beaucoup dans ma tête comme le Tomb Raider de 2016. Là, avec. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais. Sinon, dans les affaires que j'ai checkées, je ne vais pas regarder grand-chose. J'ai regardé Last One Laughing sur Amazon Prime, qui est une genre de compétition que des humoristes essaient de se faire rire entre eux autres. Puis comme quand tu ris, tu te fais éliminer. Sauf que ce qui est quand même drôle, c'est que... Genre, tu sais, l'humour clever fait rire personne car c'est comme provoqué. Fait qu'ils font toutes les pires niaiseries ridicules que c'est pas drôle, sauf juste qu'essayer de le faire, ça rend ça drôle. Tu sais, comme la première personne qui brise, là, qui tombe en rire dans le jeu, c'est parce que Tom Green a pitché une crotte en plastique devant elle sur une table. Là. Mais tu sais, genre juste Tom Green qui arrive derrière toi et qui pitche une crotte en plastique sur la table, c'est fucking stupide. Là. Fait que, en tout cas, gros show que Pierre-Luc m'a recommandé. Mais voilà, fait que c'est pas mal ça les affaires que j'ai regardées dans les derniers jours sur les interwebs là, puis en tant que TV ou cinéma. Fait que voilà.
OK. Moi, pour ma part, j'ai aussi vu Disney m'a envoyé un lien pour son nouveau film d'animation, le nouveau Pixar qui sort le 11 mars.
Turning Red.
Oui, Turning Red, qui est réalisé et coécrit par Domi Shi, qui avait fait le court-métrage Bao.
Oui, nice.
Puis c'est ça. Puis le film est coécrit par Julia Chou. Puis là, c'est elle comme. Ça a tellement été un succès, je pense, il me semble que ça a gagné l'Oscar du court-métrage animé en 2018, je crois. C'était
pour quel film ça? C'était Incredibles 2?
Je pense que c'était Incredibles 2, oui. Je l'ai vu en avant d'Incredibles 2, je crois. Bref, c'est ça, je l'ai vu. En résumé rapidement, ça se passe au début des années 2000 dans le Toronto, ma foi, pratiquement Scott Pilgrim de 2002. Puis on suit une jeune fille d'origine chinoise qui s'appelle Mei-Lin Lee, qui a 13 ans et qui rapidement découvre qu'elle se transforme en énorme panda rouge quand elle devient trop stressée ou trop excitée à cause d'une malédiction ancestrale. Puis là, tout ça menace comme de dérailler sa vie de petite fille parfaite. Mais quand que le boys band Four Town arrive en ville et que sa mère lui refuse de lui acheter des billets pour, Mei-Lin et ses amis décident d'utiliser sa condition de transformation de panda rouge pour faire de l'argent puis s'assurer d'aller voir le show puis de rencontrer leurs idoles. Mais il faut qu'ils soient capables d'éviter sa mère qui les suit de près. Fait que c'est une intrigue. C'est une histoire comme qui est super comme sweet, mais.
Puis low level, genre.
Oui, mais qui est spécifiquement comme ado. T'sais, c'est une jeune fille et ses amis qui essayent de se ramasser du cash pour aller voir un boys band. D'ailleurs, les tunes du boys band sont toutes écrites par Billie Eilish et son frère. Sont super bien réalisées. Genre, on dirait que c'est des tunes de cette époque-là que tu n'avais jamais entendu, mais sont super fidèles. C'est aussi question soundtrack. C'est le premier film animé de Ludwig Göransson, qui s'impose comme le nouveau GIAC.
C'est GIAC 2. Là.
C'est GIAC 2. Bien sûr, GIAC 1, c'est Michael Giacchino qu'on aime beaucoup. Mais bref, ça, l'histoire utilise comme assez bien comme une utilisation de métaphores de puberté, puis justement d'avoir ses premières règles, mais avec une transformation. Tu sais, c'est très loup-garou, super-héros-esque, mais sans avoir à être pogné dans les carcans d'affaires de super-héros du grand écran que Disney a produit. Puis aussi, ça parle de plusieurs affaires, vraiment le fun en même temps. Tu sais, l'histoire comme d'une fille qui, pour la première fois, se rebelle contre sa mère, mais qu'en même temps, il y a aussi la notion que, tu sais, c'est l'âge où que tes amis deviennent super importants pour toi, puis qu'ils deviennent quasiment comme au même niveau que ta famille. Puis, comme justement, c'est une affaire qu'on voit dans le film, c'est que l'affaire qui la calme lorsqu'il est transformé en panda rouge pour qu'elle redevienne humaine, tu sais, elle pense pas à sa famille, elle pense à ses amis, tu sais. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça comme vraiment surprenant comme affaire qui arrive dans le film. C'est super beau, coloré. Moi, une affaire qui m'a vraiment comme totalement charmé aussi, c'est que là où bien des Pixar essayent comme d'avoir l'air réaliste, là, on est dans une zone où les personnages sont vraiment cartoon, qui ont l'air de dans Gravity Falls ou même Steven Universe, tu sais, des personnages vraiment bubbly.
Ronds, puis genre avec des traits exagérés, puis des...
Ouais, c'est ça, puis que là, leur face peut être exagérée avec le voice avec la performance de voice acting derrière. C'est comme justement voir une version grosse machine à argent Pixar, mais avec la réalisation artistique de ces cartoons-là. Puis en plus de ça, le film veut que tu ris beaucoup puis que tu aimes immédiatement ces personnages-là. Fait que c'est frénétique comme un Edgar Wright, là, surtout les 15 premières minutes. Nice. Fait que ça m'a vraiment plu aussi, cette affaire-là. Tu sais, c'est aussi vraiment comme moderne de cette façon-là. Tu sais, Domichi, elle a 34 ans, tu sais. Puis là, c'est cool de voir comme un peu aussi comme avec, mettons, Spider-Man Into the Spider-Verse ou Mitchell versus The Machine, c'est de voir du monde, soit de ma génération ou plus jeune que moi, qui font des gros films d'animation avec de l'argent derrière. Tu sais, c'est plus... Tu sais, Cars, là, tu le vois que ça a été fait par des boomers. Là. En fait, ça a été fait par un boomer en particulier qui est un creep sexuel. Mais,
ouais, c'est ça, là. Ouais. Avec des chemises hawaïennes.
Ouais, ouais. Les signes étaient là, hein, pareil.
ouais.
Mais, tu sais, si tu me montrais une photo de plein de gens puis qu'il y avait une photo de John Lasseter là-dedans, puis dis, pointe-moi vers celui-là qui est le plus probable à pogner tes cuisses sans que tu veuilles, ça serait comme c'est Lasseter, c'est monsieur hawaïen drette là. Là.
Ouais.
Mais bref, c'est cool de voir comme des dessins animés que c'est clair que le monde se rappelle encore des 5 premières saisons des Simpsons, puis ça l'a affecté leur sens de l'humour, puis c'est comme ça qu'ils ont écrit leur cartoon ou tu sais, les cartoons weird de Nickelodeon ou des affaires comme ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça comme de l'air frais, c'est moderne, c'est jeune, c'est très beau. Puis j'ai vraiment bien aimé ça. Comme j'espère que, tu sais, on peut dire, c'est facile de dire que Disney, il y a quelque chose d'un peu mercantile ou sournois.
C'est une shop, là. Disney, c'est un peu une shop, là.
C'est une shop, mais tu sais, il y a aussi là, de faire des films sur différentes zones du globe, différentes cultures,
ouais.
Ou différentes cultures historiques aussi, tu sais, il y a toutes ces affaires-là. Mais en même temps, si ça donne le micro à du monde issu de ces communautés-là, puis que ça fait le résultat nice de même, c'est tout de même comme la meilleure le meilleur résultat d'une situation qui est peut-être un petit peu épineuse. Là. Fait que c'est ça, ça sort ce vendredi.
C'est le 12 mars, hein? C'est ça?
C'est 12 ou 11 mars.
OK, ouais, ça se peut.
Puis il y a eu un tollé que le film n'est pas sorti en salle et qu'ils l'ont juste mis straight sur Disney+, mais un peu comme Encanto, ça se pourrait qu'il explose plus à cause de Disney+.
Ouais. Ouais, ben c'est ça, j'avais une couple de questions là-dessus. Là, t'as dit qu'ils t'ont envoyé un lien. Fait que quand ça marche, genre recevoir un lien pour écouter de quoi de Disney Plus avant que ça sorte, genre. Je suis curieux de savoir quand ça marche, là.
Oui, ce qu'ils font, c'est que moi, à date, c'est qu'ils avec mes dealings avec les gens de relations publiques et de compagnie, c'est qu'ils t'envoient des sites ou des apps. Moi, j'écoute ça sur mon Apple TV chez moi. Fait que ce que je fais, c'est que je télécharge. Mais comme tout le monde peut télécharger ces applications, ces apps-là, comme Disney Début et des affaires comme ça. Mais l'affaire, c'est que toi, tu vas sur. Mettons, moi, je reçois un lien, je vais sur le site, je m'inscris. Je download une app d'identification spéciale codée. Puis que là, je log mon nom là-dedans. Fait que quand je clique sur le lien de Disney, mon app d'authentification me donne une série de chiffres puis qui disparaît genre à chaque 14 secondes.
Oh,
là, faut que je rentre le chiffre. Puis là, après, ça me donne accès dans l'app de Disney ou l'app de Universal ou l'app d'une autre compagnie. Ou là, des fois, il y a des compagnies de screeners qui sont comme ça. Fait que là, le média apparaît dans cette app-là. Puis il y a mon adresse email à travers.
T'as un watermark!
Ouais, il y a un watermark avec okay, mon nom.
Fait que ça, c'est comme. Ils veulent pas que ça leak. Fait qu'ils veulent que si ça leak, ils savent c'est qui l'a leaké. Genre.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y a soit mon nom ou mon adresse email dessus. Puis. Oh
ton numéro d'assurance sociale, là.
Ben, quasiment. Il swatch. Puis là, je le regarde. Puis là, ça te dit, mettons, ça dépend pour certains, mais des fois, ça te dit comme, OK, t'as. Tu peux l'écouter 4 fois.
OK, dans... ouais, fait que c'est pas genre all-in, genre.
Tu l'as pour toujours, là. Ouais.
OK, ouais.
C'est pas okay. Comme. Il n'y a pas comme un onglet secret sur Disney Plus, là, que tu sais. Va cliquer sur l'œil de Donald, puis là, t'as accès à ça, là, malheureusement.
Ouais, mais dans le temps, tu sais, il y avait des DVD, fait que je me dis peut-être qu'ils se disent, bon, tu sais, accès pour toujours, mais OK, cool. Ouais, ça aussi, ça, l'affaire de. Il sort juste sur Disney Plus, c'est comme dommage, là, parce que c'est juste Pixar, dans le fond, qui s'est fait. Que tous ces films depuis la pandémie se sont fait domper sur Disney+. Là. De ce que je me rappelle, là, Soul s'est fait domper sur Disney+, genre jour 1. Comment ça s'appelait? Luca?
Luca aussi, oui.
Ça aussi. Puis là, Turning Red, qui est comme le troisième.
Encanto, il était comme en salle, mais pas longtemps à cause de la pandémie.
Mais c'est un film de Disney, ça, c'est pas Pixar.
Ah, OK. Oui, c'est vrai.
Mais ça me fait que, tu sais, fait c'est comme Pixar qui est comme le studio d'animation supérieur chez Disney. C'est celui qui s'est comme pelleté comme plus loin et qui s'en sac. Mais en même temps, tu sais, Encanto, il a arguably un plus gros succès, j'ai l'impression, sur Disney Plus qu'en salle. Là, là. Je veux dire, son impact culturel a eu lieu la minute qui a été disponible pour tous en streaming. Fait que...
Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, on dirait que là, ça va un peu se produire, comme mettons aussi avec West Side Story qui est sorti pour aller mourir au cinéma. Puis là, aussitôt qu'il sortait, genre, la semaine passée qu'il sort en salle, là, je voyais du monde en parler sur Internet soudainement vraiment plus que ça. Puis il disait, hey, checkez ça, ce film-là, il est bon. Fait que, même chose avec The Last Duel quand il est sorti en vidéo on demand. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est...
Mais à la fin, je me demande après, c'est comment ils vont pouvoir... J'ai l'impression qu'il y a gros des projets, même qui ont été dompés sur streaming, c'était comme parce que les coûts, ils avaient déjà été engendrés, puis ils étaient comme, oh, fuck it, on l'a déjà, fait que... Tant qu'à l'avoir et pas faire d'argent aussi bien juste le domper en streaming, mais je sais pas à quel point, mettons, c'est un thing qui va être rentable de mettre 200 millions dans un film d'animation juste pour le mettre en streaming et peut-être avoir un buzz une fin de semaine, tu sais, quand t'as aucun autre window pour le rentabiliser. Là, fait que...
Ben, tu sais, pour les films d'animation, ça c'est particulier parce que ça, c'est des films qui vivent tellement longtemps en streaming pour leur auditoire d'enfant, tu sais, comme je me rappelle d'avoir entendu. D'avoir lu ça aussi, là, comme dit pour moi, c'est pas Disney Plus, là, c'est Moana Plus. Là. C'est une app pour faire jouer Moana constamment à mon enfant. Puis les views restent là, ça compte pour des données, puis ça fait que le film se grave peut-être plus immédiatement dans la tête de l'enfant que là, quand ils vont sortir le live action de Moana dans 7 ans en salle, là, ils vont être plus prêts que jamais à y aller. Là.
Ah, imagine quand Disney va être rendu à faire les remakes live action des films d'animation qui sortaient quand ils faisaient les remakes live action des films d'animation qu'ils avaient fait avant.
Ben, ça va arriver, hein, tu sais, sérieux.
Ah, ouais, définitivement.
Surtout avec la technologie, mettons, de capture, puis de CGI, puis de rajeunissage, là. Kristen Bell pourrait peut-être jouer son rôle de Frozen en live, là. Ça va être... J'ai écouté toute Veronica Mars il n'y a pas si longtemps. Elle n'est pas si différente que ça, puis là, ils ont juste à mettre du lissage numérique sur sa face, puis elle va être Anna, ça va être ça, là.
Ouais, puis en même temps, ça leur donne du genre de data jour et nuit. C'est quoi, là, que le monde y clique dessus. Avec ça, juste, parenthèse, bien sûr, mais t'as-tu Amazon Prime Video?
Oui.
Amazon Prime Video, là, sont tellement des sales, là, parce que n'importe quand tu fais pause sur Amazon Prime Video, ça te dit quel acteur est dans le shot et quel tune il joue. Là.
Oui, ça c'est le feature X-ray, ça s'appelle.
Le X-ray, ouais, mais le X-ray, il est plus sur moi que sur le film, je pense, là, parce que ça veut dire que chez Amazon, il y a du monde, leur job, c'est juste de loguer à chaque instant de toutes les minutes de contenu qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il y en a pour qu'il y ait le plus de data possible. Puis probablement que les autres services de streaming aussi, c'est ça, mais Amazon sont tellement shameless à propos de ça qu'ils nous le montrent à nous. Puis ça, c'est une affaire qui est fascinante. Que ça va être fantastique, le futur.
Ouais, le futur, on regarde bien. Là. Le futur, c'est merveilleux là, ce qui s'en vient. Là. Mais parlons plutôt du présent et yes. Du film de la semaine qu'on a une série unie pour parler. Parlons de The Batman.
Le
Batman. Toi, tu le veux en français, Le Batman.
Aïe, 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 j'ai des choses à dire là-dessus. On en parlera.
Oh, ouais, absolument. qui est réalisé et co-écrit par Matt Reeves, qui avait récemment fait les deux derniers films de la trilogie de La planète des singes, qui a aussi fait Cloverfield et la version américaine de Let the Right One In. Et bien sûr, qui est avec J.J. Abrams, c'était le co-créateur de Felicity. Et le film est co-écrit par Peter Craig. Dans The Batman, durant sa deuxième année de croisade contre le crime, Batman évite toutes ses responsabilités en tant que Bruce Wayne, puis il concentre tous ses efforts sur sa bataille contre la criminalité à Gotham City. Puis quand le maire est brutalement assassiné par un tueur en série qui laisse des énigmes derrière lui, le Riddler, Batman n'a pas le choix de faire équipe non seulement avec le lieutenant James Gordon, mais aussi l'énigmatique Selina Kyle, qui est une serveuse de cocktail dans le Iceberg Lounge où l'élément criminel se ramasse, dont Vito Falcone, le père de la mafia, mais aussi Oswald Cobblepot, le pingouin. Et justement, on découvre que Selina Kyle est bien sûr Catwoman, une super cambrioleuse qui aide les démunis dans sa communauté. Mais l'enquête dans le crime organisé de Gotham City va pousser Bruce Wayne à faire des découvertes non seulement sur la corruption qui étrangle la ville, mais aussi sur sa propre connexion avec cette corruption-là, alors que le Riddler tente d'exposer la vérité sur la corruption de Gotham City au grand jour. William?
Oui?
Qu'as-tu pensé de Batman? Premièrement, à quel point que tu aimes Batman comme personnage et qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là?
J'aime vraiment beaucoup Batman. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé de plusieurs gens, mais j'aime Batman quand il est en collant et qu'il fait des énigmes bizarres avec Robin en collant. J'aime Batman quand il est avec Robin et qu'il se bat contre Mr. Freeze dans les années 90. J'aime Batman quand il tape sur des méchants à Arkham City. Puis j'aime Batman quand c'était dans un film de Matt Reeves. Fait que Batman, dans toutes ses sphères, là, il m'intéresse, puis je le trouve le fun. Puis quand j'ai appris que Matt Reeves travaillait là-dessus, j'étais content en tabarnak parce que Matt Reeves, il a fait mon film préféré Planète des singes, qui est War for the Planet of the Apes, que je trouvais qu'il y avait comme une genre de confiance dans le rythme de War for the Planet of the Apes, où ce que il était game de vraiment prendre son temps et de faire un film de guerre, mais pas un film de guerre, genre de gros film d'action, mais un film sur comment la guerre peut avoir comme l'impact, whatever. Avec des singes, fait que là, j'étais comme, oh, yo, avec Batman, là, il va se lâcher là, ça va être fantastique. Puis je dois dire que j'ai trouvé ça assez fantastique. Après, je pense que le film n'est pas parfait. C'est un film de Batman, de détective, d'enquête, puis de shit sur le Riddler. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils se sont dit, oh, Thomas, il n'y a pas assez d'action dans ce film-là. Fait que là, il faut comme. Mais là, on spoil-tu le film? On peut-tu spoiler le film ou c'est.
On pourrait dire plus nos impressions générales puis garder plus les spoilers vers la fin.
OK, ben en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait son film de Batman d'enquête de Riddler. Puis à un moment donné, il s'est dit, le film, il finit pas présentement sur un gros third act, genre intense d'action non-stop. Fait qu'on va scotch taper un comme par-dessus, mais on va en trouver un qui fit avec le thème et avec tout le reste. Mais j'ai quand même vraiment aimé ça overall. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de film que quand je vais le revoir d'autres fois, vu que je vais reconnaître un peu la structure puis le squelette, puis que je ne vais pas être comme complètement... Parce que c'est quand même overwhelming là, comme film. Là, c'est quand même très, très, très... C'est beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en le réécoutant, il y a ces problèmes-là qui vont probablement être lissés avec le temps. Fait que, toi, Yannick, en général, c'est quoi que tu as pensé sur The Batman?
The Batman. Écoute, moi, j'aime beaucoup Batman, mais on dirait que c'est une situation comme la vieille parole sur les Grateful Dead. J'aime le band, mais les fans me tapent un peu. Parce qu'il y a comme un genre de culte autour de Batman, de à quel point le monde trippe un peu trop sur...
La profondeur perçue.
Ou il trippe, mettons que Batman, il est 10 affaires, là, il est plus que ça, mais il y a 2 affaires qu'il aime vraiment, puis le reste, il s'en crisse.
Ouais.
Puis ça, c'est genre d'interprétation que le monde capote trop là-dessus, ça me dérange un peu. Mais j'aime beaucoup le personnage. Je l'aime beaucoup. Vu que j'aime les super-héros pendant longtemps dans la pop culture, une des affaires qu'on nous sert le plus, c'est Batman. Fait que, par conséquent, puis de tout ce qu'on nous a servi de Batman, il y en a beaucoup qui est tout de même très bon. Fait que, tu sais, je l'aime par question de quasiment de volume, de qualité. Il y a beaucoup de grands comics de Batman aussi. C'est un personnage qui se prête vraiment bien à ce qu'il soit réinterprété par des artistes. Puis quand ça marche bien, ben, ça te fait des fois des genres de classiques instantanés ou du moins quelque chose de soit vraiment lisable ou de vraiment regardable. Fait que, j'aime bien Batman, mais The Batman, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un film de Batman qui a justement beaucoup d'affaires que j'aime du personnage. Il y a beaucoup le gros accent sur l'aspect détective. Moi, j'aime beaucoup ça. L'aspect aussi néo-film noir qui est vraiment, ça c'est une affaire qui me parle. J'ai toujours comme moi, j'ai comme découvert la notion de c'est quoi un film noir dans ma jeunesse en écoutant Roger Rabbit et en écoutant Batman Animated. C'est comme ça mes repères de films noirs, comme sans le savoir, sans avant que je plonge vraiment dans c'est quoi ces films-là, c'est quoi ce genre-là. Puis une fois que j'ai plongé comme dans les trucs originaux de tout ça, j'ai adoré ça, je trouve ça écœurant. Tout l'aspect de système poqué,
corrompu.
Puis ça prend comme habituellement un genre de weirdo soit trop moral ou amoral pour aller au fond de ça. Puis ça, je trouve que c'est des structures d'histoire qui sont vraiment plaisantes. Et là, de faire un film de Batman de ça, c'était exactement dans mes cordes. Aussi, moi, je préfère... je trippe pas autant sur Batman comme chevalier solitaire, mais là, dans ce film-là, il est beaucoup avec Catwoman. Il est beaucoup avec le lieutenant, ouais, avec Gordon. Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça Batman avec quelqu'un d'autre, là, parce que ça rend le personnage plus vivant pour moi. Fait que à travers tout ça, c'est ça, comme l'aspect noir, l'aspect détective, je trouve que j'aime ce Gotham-là dark. Je te dirais que si, justement, on peut rentrer justement, on peut rentrer dans l'affaire qu'on aime moins, puis après, on retournera vers les trucs qu'on aime.
Oh oui.
Je te dirais que le leur version du Riddler en Zodiac, c'est bien pensé, c'est le fun, mais c'est quasiment caricaturalement exagéré, parodique, dark, par bout.
Oui, ben tu sais, c'était... Paul Dano, il a joué dans Prisoners. Fait que ça fait... Il y a aussi un peu un mini slice de Prisoners là-dedans, le genre de weirdo comme qui est comme potentiellement... Mais finalement, en tout cas, je ne veux pas spoiler Prisoners, mais tu sais, genre que Paul Dano, il joue une genre de bébite ermite sociale bizarre. Là. Une affaire que je trouve drôle, par exemple, c'est comment, un moment donné dans le film, il dit « J'ai mes 500 followers » puis que... Ça, c'est une note que j'ai vraiment aimée dans le film, en fait, c'est que c'est comment lui qui dit qu'il a 500 followers, c'est comme un peu vu comme si c'était beaucoup de monde, mais tu sais, dans la manière ultime, c'est pas tant beaucoup de monde que ça, 500, là, genre, mais c'est mais peut-être assez pour être une menace, mais en même temps, quand tu regardes le scope de la patente, c'est peut-être qu'on donne beaucoup d'importance au monde qui ont 500 followers dans la vie. En tout cas, bref, je trouve que, puis je dis ça, puis j'ai 500 followers sur Twitter, mais en tout cas, son personnage, je dois dire, moi, ça fait longtemps que j'attends un Riddler comme Grande. Fait que j'étais quand même content de voir ça, là, parce que c'est le fun d'un Jim Carrey là, avec un genre de costume vert là, avec des points d'interrogation partout. Mais un traitement un peu sérieux du Riddler, j'avais hâte de voir ça. Fait que juste pour ça, moi, j'étais content. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont soulevé ça, que Paul Dano, c'était comme une mini coche trop, trop intense, mais en tout cas.
Ben, tu sais, tu vois, justement, il y a des aspects qui sont un peu caricaturales, mais comment le Riddler se démontre dans le film, c'est que, tu sais, il veut exposer la corruption de Gotham, puis là, il y a beaucoup de gens qui suivent en ligne, puis là, à un moment donné, les gens, il y a des gens qui se pointent à des événements publics avec des pancartes du Riddler, puis là, on est dans une saveur QAnon-esque.
Oh, oui.
Puis ça, par exemple, j'ai trouvé ça écœurant. Ça, j'ai trouvé ça super bon. C'est juste assez collé sur la réalité. T'es comme, ah ouais, ça arriverait ça. C'est sûr que ça arriverait, tu sais.
Ben, c'est qu'en plus, au début, la rumeur, c'était que le film se passait dans les années 90. Tu sais, comme avant qu'on voit les trailers. Puis que, tu sais. Puis en fait, visuellement, le film, il n'y a pas grand-chose qu'il faudrait changer dedans pour qu'il se passe dans les années 96, j'ai l'impression, là. Tu sais, je veux dire, il y a des téléphones cellulaires dedans, fait, puis il y a Internet haute vitesse, mettons, dedans. Fait que c'est, ça se passe à cette heure, mais tu sais, il serait facilement transposable il y a genre 20-30 ans, mettons, puis ça, ça marcherait quand même. Là. Moi, je dois dire, par exemple, j'ai peut-être trouvé que le chunk enquêtage, surtout quand c'était rendu l'affaire de... tu sais, au début, il y a eu comme 3-4, genre, tu sais, ça allait vite quand même. Il y a eu comme 3-4
vagues.
Ouais, meurtre slash vague d'indices. Puis à un moment donné, ils ont resté comme une heure sur la même affaire que. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont traduit en français, fait que c'était plus obvious, là. Mais c'était pas si comme. Je trouvais qu'ils ont passé vraiment un genre de 40-45 minutes sur le même indice. Puis j'étais comme, c'est quand même très long, là, ça, là. Je veux dire, dans un film de 3 heures, mettons, je trouvais que. S'il y avait pu, genre, simplifier des affaires, ouais, non, mais c'est Falcone, non, c'est quoi, c'est Carmo... C'est quoi le nom de l'autre gars de... Tu sais, il y a Falcone qui est le gars de mafia, mais il y a comme pas un autre gars de mafia, mettons, dans le film, là, que Falcone disait que c'était sa faute, là, genre...
Carmine, je pense.
Carmine, en tout cas, ouais. Tout ce bout-là, moi, j'ai trouvé un peu fourrant, là, quand t'apprends la conclusion, t'es comme, OK, ouais, c'était vraiment plus simple que ça, finalement. Là. Fait qu'en tout cas, ce bout-là, je trouvais qu'il y avait gros d'aller-retour. Là, tu vas voir le pingouin, puis là, tu vas voir d'autres... En tout cas, je trouve que ça aurait pu être un peu lissé, un peu streamliné pour le film, mais sinon...
Ben, je suis pas en désaccord avec toi. Cependant, tu sais, moi, je trouvais ça le fun tout le long. Puis je te dirais que, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment fait remarquer, mettons, plus le temps dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait comme... « Hey, il me semble que ça fait 15 minutes que je n'ai pas vu Catwoman. »
Ouais.
Puis là, quand elle revient, je suis comme « Oh yes, c'est là, c'est vrai, ça faisait 15-20 minutes qu'elle n'était pas là. » Fait que c'est des moments comme ça. Moi, c'est une affaire que je remarque souvent dans les films. C'est comme ça fait longtemps qu'un personnage est apparu ou disparu. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment tout beaucoup aimé ça. Je trouve que, tu sais, Robert Pattinson, moi, je n'ai jamais eu aucun doute. Il doutait, mais tu sais, comme on dirait qu'il pense que Twilight, c'est entièrement sa carrière, puis même dans Twilight, il était vraiment bon.
Ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui. Moi, j'ai jamais écouté Twilight. Là.
Mm-hmm.
Fait que tout ce que je connais de Twilight, c'est genre le 6 ans où c'était vraiment drôle de dire que Twilight, c'est de la merde, que les filles étaient connes d'aimer ça. Là. C'est ça que je me rappelle de Twilight. Là. Fait que probablement que cette énergie-là, c'est ça qui a drivé beaucoup de gens à pas croire en Robert Pattinson. Parce que ça, c'est une affaire qui est quand même intéressante. Je ne veux pas faire une grosse parenthèse sur Twilight, mais comment les choses niaiseuses de gars genre sont comme plus socialement acceptées que les choses niaiseuses marketées comme aux filles. Tu sais, comme... Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui... En termes de distance de niaiseux, là, puis j'ai jamais vu Twilight. Là, fait que là, c'est de la spéculation totale, là, mais j'ai l'impression que le genre de lousse de qualité que Twilight a, que les filles sont comme game d'aimer ou whatever, il en existe de l'autre bord autant pour les deux. Tu sais, mettons, la lutte, c'est comme...
Je trouve absolument.
C'est à même distance, mais c'est comme plus légitime, j'ai l'impression, publiquement, de chier ces affaires niaiseuses que les filles aiment. En tout cas, dans ces années-là, là, je ne sais pas à cette heure si c'est encore le cas, mais dans ces années-là, c'était comme... Si c'était comme légitime, c'était comme c'était plus légitime de chier ces affaires niaiseuses de filles que ces affaires niaiseuses de gars.
Ben oui, parce que puis... ça, c'est adolescent, William. Pas comme quand je vais voir un film avec un super-héros qui pogne la fille à la fin. Ça, c'est une affaire d'adulte. Je suis pas niaiseux d'aimer ça. T'sais.
Mais c'est comme si le public masculin voulait tout réhabiliter les affaires niaiseuses en trouvant des layers comme qui existent aussi et qui n'existent pas. Mm-hmm. Mais comme si ça se pouvait pas de l'autre bord. Là. Fait que... Mais par exemple, ça, c'est une affaire aussi que je voulais dire. Le film performe vraiment bien présentement au box-office. Mais il fait pas du Marvel money, là.
Mm-hmm.
Tu sais, il fait vraiment pas du Marvel money, puis je pense que je sais un peu pourquoi. Je pense que vraiment, là, le monde de mon âge est un peu peut-être après moi, mais pas bien ben plus après moi. On est la dernière gang à qui ils vont pouvoir vendre des films de même de Batman. Je pense sincèrement qu'on est probablement la dernière gang à qui ils vont pouvoir vendre ça. Parce que moi, je sais que je suis comme dans les dernières années... Tu sais, les années 90, c'était les années trash de... Ah, la violence, puis le gore, puis là, tu sais, comme c'était les années trash, puis j'ai pas l'impression que c'est la même vibe pour les jeunes d'aujourd'hui. Ça va peut-être revenir, là, mais j'ai l'impression que vendre ça à du monde de 15 ans aujourd'hui, je sais pas si ça a le même impact, genre, que moi quand j'avais 15 ans, mettons. Là.
Ouais, que tu penses que le monde de 15 ans, c'est. C'est pas.
Spider-Man, ça leur parle plus, là. Spider-Man, qui est comme funny, là, puis que les films de Marvel, j'ai l'impression que ça parle vraiment plus. Mettons, aux quatre cadrans là, qui disent en cinéma là, les plus 25 hommes, les plus 25 femmes, les moins 25 femmes, les moins 25 hommes. Là, j'ai l'impression que, genre, un film de Marvel, là, c'est pour ça que ça fait fucking de l'argent, là, c'est que c'est parfait pour les quatre cadrans, mettons. Là, ou en tout cas, c'est passable pour les quatre cadrans. Mais un film comme The Batman, là, j'étais comme, je sais pas qui, mettons, qui a 12 ans présentement. Il y en a sûrement, là. Mais c'est vraiment moins... Ça se préoccupe vraiment moins de vendre un film de même à ce public-là, j'ai l'impression.
Ouais. Non, ben ça, je suis d'accord. C'est totalement. Ça se préoccupe moins de ça. Mais en effet, ouais, je comprends ce que tu veux dire que de cette génération-là, aller se promener dans ce genre de grit-là, c'est peut-être pas le fun de payer des billets pour. Tu sais, ouais. Peut-être qu'ils vont. Du monde jeune aime ça.
Euphoria, genre, mais...
Ben, tu sais, Euphoria, par exemple, c'est trashy, mais c'est aussi émotionnel, puis c'est comme probablement aussi plus adulte, quelque part, parce que c'est trashy, puis qu'il y a, le bandwidth d'émotion, il est peut-être plus large à ce niveau-là. Puis c'est aussi... J'ai pas vu beaucoup d'Euphoria, mais je pense que c'est stylisé d'une façon plus pop. Le fun, c'est pas gritty. Oh, c'est peut-être émotionnellement gritty, mais c'est pas visuellement gritty, c'est plus fantaisiste, je crois.
Oh, ouais.
Mais regarde, on va arrêter de parler d'un show qu'on n'écoute pas. On va parler du film
ouais,
qu'on a vu aussi.
Oui, ben c'est ça. Fait que le film va faire tout l'argent du monde, puis Warner va en greenlighter 2. Fait que je m'inquiète pas là-dessus à ce niveau-là. Mais je pense que c'est pour ça que DC peut-être devrait arrêter d'essayer de faire du Marvel dans. Puis pas qu'ils ont si réussi que ça à émuler le style, là. Mais parce que visiblement, comme ce qu'ils ont à offrir dans la plupart des cas, puis pas dans tous les cas, là, tu sais, un film comme Shazam, j'ai l'impression que ça peut s'adresser à pas mal tout le monde. Mais ce qu'ils ont à proposer, le faire fidèlement, on va dire, n'a pas l'air de. En tout cas, à date, ce qu'ils ont fait n'a pas l'air de rejoindre tous les publics. Là. Je sais qu'Aquaman a marché fort. Puis Aquaman, tu sais, c'était un gros film bombastique. Puis Wonder Woman aussi a marché fort. Mais puis probablement qu'un film de Superman traité comme du monde pourrait marcher avec tous les publics.
Écoute, si ça arrive à un moment donné, mais regarde, me faire un petit pot en attendant. Il y a Superman et Lois.
Ouais, définitivement.
Fucking bon. Fucking bon.
Fait que, ouais. Mais en tout cas, gros film pareil, je dois dire. Là, j'aimerais ça faire une mini-parenthèse.
Vas-y, sur vas-y.
Qu'est-ce qu'il y en est de la traduction française, OK?
OK, parce oui, tu l'as vu en français, là.
Moi, je l'ai vu en version québécoise. Puis là, tu sais, j'ai rien contre les versions doublées au Québec, sauf que moi, je trouve ça très drôle parce que le Riddler, là, sa gimmick, c'est de faire des jeux de mots. Okay? Tu sais, sa gimmick, c'est de trouver des manières clever de faire des jeux de mots. Puis de la manière comment ils faisaient des... Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient, OK? Mais des fois, il fallait qu'ils prennent des leaps là, pour comme faire comme si la genre d'énigme avait du sens. Là. Tu sais, comme la première énigme, c'est qu'est-ce qu'il fait un menteur quand il est mort?
Ouais, ouais, c'est « What does a liar do when he keeps doing when he's dead? He lies still.
Ouais, c'est ça. Okay. C'est fucking bon, ça. Sauf qu'en français, comment tu traduis ça? Puis là, c'était, je me rappelle plus c'était quoi la prémisse, mais la conclusion, c'est « Il ment en songe
». Regarde, « Il ment en songe », OK, « Il ment en songe », OK, c'est en effet très stretché. Je salue l'effort des traducteurs d'amener ça dans le cours.
Mais le plus gros stretch, OK? Parce que là, ça, le deuxième clou, c'est genre... Tu sais, le mot, c'est « drive ». Puis là, le maire, tu sais, s'était fait arracher un pouce. Fait que là, c'est un thumb drive. Fait que c'est une clé USB.
Mm-hmm.
Mais là, même, juste drive, là, qu'il trouve que c'est le char. C'est déjà un miracle en français, là. Tu sais, c'est genre, hey, ben c'est lui, c'est le char, là, qui est correct. Puis là, après, il fait, on cherche une clé USB. Puis là, ça sort de nulle part, là. Ça sort de fucking nulle part. Parce que clé USB, il n'y a pas moyen de faire marcher ça avec drive puis avec thumb, là. Tu sais, comme. Fait que. C'est une affaire de « Ah, oh, il y a besoin d'un coup de pouce. » Puis je me rappelle plus ça sortait d'où, l'affaire du coup de pouce. Mais j'étais comme « Oh my God! » Puis même coup de pouce, ça veut rien dire qu'une clé USB. Là. Fait que ça, là, c'est comme « Oh my God! » Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, puis chapeau, mais tabarnak!
Les traducteurs sont les vrais héros. Nous, oh, les saluons. Ouais. On les salue, oh, ouais, si vous voulez. J'aimerais ça souligner, c'est comme justement, Robert Pattinson est super bon, j'aimerais aussi souligner Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, qui est super, super bonne, incroyablement charismatique, charmante, sexy. Puis, tu sais, ils ont elle puis le Pattinson, qui est aussi vraiment hot et immo, ils ont une super bonne chimie ensemble parce que, tu sais, ça, tu peux pas. Tu vois des photoshoots qu'ils font ensemble pour ce film-là, puis t'es comme, c'est irresponsable de se faire circuler ces photos-là. Quelqu'un pourrait les voir en conduisant et faire un accident. C'est pour ça qu'il ne faut pas checker ton cellulaire. Mais,
c'est vrai. C'est
mais moi, ce que je trouve écœurant, c'est que, tu sais, moi, une affaire que je marche beaucoup en regardant ces films-là, et par ces films-là, je veux dire des films de super-héros, c'est à quel point ils sont proches ou loin de leurs différentes sources originales. Puis, elle, comment elle est écrite, puis elle, ce qu'elle incarne, est vraiment comme la Catwoman de Darwin Cook et de Ed Brubaker qui a été recréée dans le milieu des années 2000. Une fois que tu sais le costume de cuir qu'elle a, c'est essentiellement le suit que Darwin Cook a créé pour elle, puis elle a la même attitude de protéger. Tu sais, comme Batman protège, mettons, les gens ordinaires, les criminels, mais Catwoman, elle protège, tu sais, des criminels puis du monde dans zone grise qui sont pas si pires que ça du malheur. Puis c'est ben, ça qu'elle fait.
Ça pour survivre, genre, mettons.
Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qu'elle fait dans ce film-là. Puis c'est ça qui l'amène dans l'intrigue. Fait que je l'ai trouvé vraiment super bonne. Puis, tu sais, là, il parle de faire des spin-offs sur HBO Max / Crave pour des personnages et des acteurs du film. Là. Mais regarde, moi, j'espère. Moi, celui-là que je veux, c'est Catwoman. Là. Je veux un spin-off de sa Catwoman. Elle vraiment
surtout, s'il en fait un sur Penguin, je peux pas imaginer que Catwoman serait pas dans le mix.
Ben, ça devrait, là, tu sais, juste elle qui vole des affaires ailleurs, là, c'était écœurant, là, tu sais.
Ouais, j'ai chose juste de ça. Ouais, puis j'aimais ça, tu sais, qu'elle était comme, regarde, tu peux t'approcher les petits thugs comme tu veux, là, Pattinson, mettons, là. Mais, genre, moi, j'ai vraiment aimé le parcours de Batman dans ce film-là, parce que, tu sais, les dernières années, là, la grosse mode là, qui est 100% la faute à Zack Snyder, là, en ce qui me concerne, mais c'est de faire vous êtes des enfants, puis Batman, actually, là, il tuerait du monde, puis il pèterait des gueules, puis il serait pas gêné de ça, puis blablabla. Puis moi, j'aime ça que le film, il, Batman ne tue personne dans ce film-là,
mm-hmm.
Puis je pense qu'il n'a jamais tué personne dans ce film-là, ben, avant même ce film-là. Mais j'aime qu'il starte à une place où ce qui est comme moi, je m'en crie, je pète la gueule du monde pour me venger parce que mes parents sont morts, puis puis. Que, tu sais, le film, il commence, puis lui, il dit, genre, ouais, quel signal est dans le ciel? C'est comme, genre, c'est une lumière rouge de, OK, il faut que vous ayez peur, je vais venir vous péter à la gueule. Puis Batman, tu sais, il a dit, j'ai weaponisé, genre, l'ombre, là. Tu sais, il y a ça, comme au début, là. Puis comment, à la fin, il est littéralement comme la lumière qui guide le monde. Tu sais, genre, j'aime tellement comment ils ont, en un film, là, Ils ont fait passer genre Pattinson de la version emo punk weird Snyder à le vrai, tu sais, le Batman qu'on veut voir, mais ils ont pas fait genre un gros chunk de nous dire pourquoi il fallait qu'il le fasse. Tu sais, même Batman au début du film, il est comme, je sais pas pourquoi, si j'ai essayé des affaires, puis là les crime rates ils augmentent, là, fait que visiblement je fais mal de quoi là. J'aime ça que le film dit que ça a jamais marché, ça, Mm-hmm. Ça, je trouve ça vraiment cool.
Ouais, ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça, justement, vers la fin du film. Il vient à une réalisation que, justement, il faut qu'il fasse d'autres choses et des affaires différentes pour aider plus la ville et sa communauté. Là, que, c'est pas juste, justement, comme varger du monde. T'sais, ça dit pas comme hey, il ne vargera plus jamais personne, mais c'est juste que peut-être qu'il faudrait que les citoyens de Gotham City, les citoyens honnêtes, n'aient pas peur de lui, mettons, puis qu'ils le voient comme quelqu'un qui veut aider. Et cette transformation-là est vraiment comme super bien amenée et est très satisfaisante aussi. Là, puis c'est jamais cheap. Là.
Ben, puis tu sais, t'es comme, tu sais, à quelque part, la seule raison pour laquelle il y a un Riddler présentement, c'est qu'il y a un gars qui se déguise en chauve-souris et qui va t'apocher le monde la nuit, puis que ça a normalisé ça à Gotham. De, mm-hmm. Ben ouais, il faut prendre le pouvoir par nous-mêmes, puis on se crise des règles. Fait que là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. Parce que Manny, il y a une réalisation que, ouais, dans le fond, j'inspire peut-être le monde, mais peut-être pas le monde faudrait que j'inspire finalement. Là. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Ouais.
Ben, c'est ça qui est vraiment écœurant, c'est que c'est dans un film, comme on en parlait, qui serait plus 4 cadrans, ça serait vraiment plus souligné. Et là-dedans, c'est, je ne dirais pas exactement que c'est super subtil, mais c'est juste une affaire qui arrive puis que Batman réalise lui-même ou qui se fait dire peut-être plus par Catwoman ou par Gordon, puis qu'il réalise. Là. C'est pas trop appuyé. Fait que non, c'est vraiment, comme je trouve que c'est une des meilleures affaires de ce film-là, c'est que ça a vraiment comme un bon sens de Batman. Parce que c'est ça, je trouve que c'est un bon film de Batman. C'est lui le personnage principal. Il y a très peu de Bruce Wayne, mais c'est lui le personnage principal, c'est ses enjeux à lui. Ça a un bon sens de qui est comme personnage, mais en même temps, c'est quoi comme les nuances que tu devrais apporter pour changer un peu le personnage, pour qu'il soit nouveau pour une nouvelle trilogie, puis lui donner comme un nouveau chemin à parcourir. Puis ouais. Ça, c'est tu sais, c'est pas n'importe qui pense à faire ces affaires-là. Là.
Puis, tu sais, in the wake des mouvements un peu qui questionnent le monde policier, faire un film de Batman où que tous les policiers sont pas mal, pas très recommandables, je trouvais que c'était très intéressant. Là. Puis aussi, tu sais, à quelque part, il y a comme l'idée aussi que Batman, il sait que, genre, il est quasiment aussi pire qu'eux autres, puis que probablement que rien va s'arranger, mais qu'au moins, il va essayer de faire les bonnes affaires à l'avenir, tu sais, plus, tu sais. Mm-hmm. Catwoman, elle ne croit pas en ça, elle est encore dans, j'ai l'impression, elle est encore dans revanche, puis tu sais, mm-hmm. ça va être intéressant à explorer dans le futur. Après, moi, je ne sais pas s'il devrait la faire revenir pour le 2. Peut-être qu'il devra la faire revenir pour le 3. T'sais, je ne sais pas. Clairement, ils vont partir une franchise avec ça. Là. Définitivement, mm-hmm. là, là, il y a un 2 présentement qui est comme... Ça, il doit être déjà dealé le 2 depuis longtemps, en fait. Là, mais
À mon avis, je trouve qu'il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne.
Moi, je trouve qu'il faut définitivement qu'elle revienne. Sauf que je ne sais pas si elle devrait peut-être revenir un coup que Bruce a fait d'autres progrès, mettons.
Ouais, ben c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve la façon que ces films-là, en fait, c'est comme un 2 pourrait comme s'éloigner du statu quo qu'on voit à la fin du film, puis ça pourrait reconstruire sur une nouvelle base. C'est potentiellement intéressant, fait que j'aimerais vraiment ça. Fait, moi, j'ai, en tout cas, regarde, j'ai déjà hâte de le voir le deuxième, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais, puis ils sont en bonne position aussi. Je trouve que Matt Reeves aussi s'est prouvé pour faire pas mal ce qu'il veut pour le prochain.
Ouais.
Comme j'ai confiance à peu importe les moves qu'il va faire. Il a vraiment mis comme tous les bons ingrédients cinématographiques, mais aussi de comic book en inspiration, je trouve, dans ce film-là. Il a mis plein d'affaires des classiques, puis, mais il n'a pas été trop évident non plus. Non, je suis super down avec ce qu'il va proposer à l'avenir, là, c'est clair.
OK, on peut-tu officiellement lever l'embargo des spoilers?
Je pense qu'on a dit qu'on a tous aimé le film. Alors, si vous êtes des gens qui n'ont pas encore vu, veuillez terminer l'épisode maintenant. Mais avant ça, nous autres, on s'en va dans le spoilerverse, William. Quels sont tes spoilers? Qu'est-ce que tu veux discuter?
Oh my god. A new Joker has appeared. Oh, moi, Yannick, je sais qu'est-ce que tu penses du Joker. Moi, je sais ce que je pense du Joker. Je sais ce que beaucoup de gens pensent du Joker.
Ouais.
Et en même temps, je comprends, puis en même temps, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis là. Et je trouve ça assez fascinant. Ceci dit, j'ai quand même compris ce que Matt Reeves voulait dire. Parce qu'il y a une interview où Matt Reeves explique son choix.
Mm-hmm.
Et ça a quand même du sens. Même si ça sonne pareil comme un genre de requête du studio, puis une affaire de Laster, ben quand tu fais un film de Batman, il faut qu'il y ait Joker dedans parce que Joker a fait 1 milliard, puis je sais pas si The Batman va faire 1 milliard. Fait que.
Ouais, ça, là, on vit dans un. Ben là, c'est sûr qu'on est dans un concept. On est dans un contexte historique différent pour que ce film-là fasse autant d'argent, là, mais que Joker fasse plus d'argent que Batman, là. Car, là que, surtout ce film-là du Joker. Le fait que ce film-là du Joker est aussi populaire va me transformer moi-même en Joker. Mais la présence du Joker, ça m'a un peu agacé aussi. Il apparaît vraiment juste en silhouette, puis un style de dialogue. Mais comme
au début, moi, je pensais que c'était peut-être Two-Face, moi, au début.
Ah,
parce que j'étais comme, wait, là, il nous bait à penser que c'est Joker, mais là, on voit sa face, puis on va voir une shot dedans de la cellule, puis là, on va voir que son autre bout de face est correct, puis que ça va être Two-Face, finalement. Je pensais que ça allait être ça. Mais non.
Mais non, malheureusement, mais tu sais.
Ça n'a pas eu de sens non plus, là, d'eau, là, parce que tu sais, pourquoi tu fais Two-Face qui est déjà Two-Face, ça serait vraiment étrange. Hein?
Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai lu la même entrevue toi que justement de Matt Reeves qui dit que le Joker est présent parce que on est supposé penser que c'est pas parce que le Riddler est en dedans que tous les problèmes sont terminés et qu'il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Mais il y a aussi dit en entrevue qu'il y avait deux scènes de Joker et que la première était, elle a été entièrement enlevée, qui était supposée comme juste apparaître, comme Batman allait y parler, mais on n'allait pas le voir vraiment. Puis il allait y poser des questions de voyons, c'est quoi les affaires de tueur en série, de m'envoyer des indices puis tout ça, parce que tu sais qu'on comprend que Batman a déjà eu affaire avec ce gars-là. Mais mais sinon, je comprends ce qu'il voulait dire, mais en effet, c'était peut-être pas. Je le ressentais pas autant que son intention. Mais
ben, surtout qu'en plus, tu dis, le pingouin est encore en liberté. Là, je veux dire, clairement, c'est pas fini cette histoire-là. Fait que. Puis ça, c'est quand même drôle que le film a réussi quand même à jongler avec quoi? Genre 3 vilains? 4 vilains? Il y a Falcone, il y a Pingouin. Catwoman, c'est pas une vilaine vraiment, mais tu sais, comme il y a le Riddler, il y a les corrompus. C'est quand même difficile de jongler avec autant de balles sans échapper tant que ça. Fait que là-dessus, moi, chapeau encore une fois à Matt Reeves. Là, parce qu'il a compris quel rôle donner à qui, puis pas tout le monde devait être le vilain du film, mettons.
Ouais, c'est ça.
Que Pingouin soit sur le site puis soit un genre de mafieux qui run ses shit, ben Batman peut aller voir deux fois puis poser ses questions, puis tu fais juste comprendre qu'il est dans le mix, puis il reviendra dans le futur, puis il y aura d'autres aventures avec. Je trouve que ça rend le film riche parce que tu dis, cet univers-là, il existe, il y a beaucoup de monde dedans déjà, il est déjà rempli, puis ça ouvre des portes aussi pour le futur. Puis moi, j'ai hâte de voir les autres méchants de cet univers de Batman-là. Là. Moi, j'ai hâte de voir un Harvey Dent là-dedans. Une Poison Ivy, je ne sais pas s'il pourrait faire, mais...
Ouais, ben je pense que l'aspect environnemental de Poison Ivy fait d'elle comme une super bonne candidate comme pour être dans des films comme ça, de se préoccuper de ça, parce que, tu sais...
Je ne sais pas comment il pourrait le rendre visuellement, c'est ça que je veux dire, par exemple. Parce que, tu sais, même si c'est probablement le film de Batman, sauf erreur, peut-être le plus stylisé, peut-être pas... Ouais, si on compare, à part peut-être les films de Tim Burton, là, qui étaient comme stylisés eux autres aussi, là, mais c'est probablement le Batman le plus stylisé qu'on a eu au cinéma, j'ai l'impression, en live action, en tout cas. Là.
Ouais.
Même à ça, j'ai quand même l'impression qu'il est comme groundé d'une certaine manière que, tu sais, il n'y aura pas... Il n'y aura pas un Mr. Freeze, définitivement, mais il n'y aura pas genre un fucking...
Clayface, mettons, là, ça semble moins probable.
Oh, ouais, c'est ça. Fait que...
Mais en tout cas, on regarde...
Mais Poison Ivy, j'avoue que l'angle, genre... Hey, Wayne Enterprise, il arrête pas de doper des shit dans le fleuve, là. Puis, ce serait fantastique.
C'est fantastique. Écoute, on a hâte de le voir. Ben, je pense que là-dessus, on va terminer l'épisode, à moins que tu aies d'autres choses que tu veux dire à vif, drette, au sujet de.
Moi, je vais demander, Yannick, toi, tu sais, c'est parce que je ne veux pas nécessairement ton ordre exact là, de Batman, ouais. Mais tu le places où dans mettons, l'éventail des Batman qui existent en live action, mettons. Là? Parce que, tu sais, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Batman 66, il y a eu le Batman. Il y a eu le Batman Burton, puis après le Batman Schumacher, tu sais, qui était comme le même Batman, mais qui n'était pas le même Batman. Après, on a eu les Nolan. Après, on a eu les Snyder. Fait que là-dedans, tu le places où? Puis en relation avec les autres, comment tu le vois, là, mettons?
Moi, je le mets très haut au top des Batman live action. Je l'aime plus que The Dark Knight, mais je dois dire que Dark Knight, en tout point, est un film comme plus réussi, qui est un film qui est mieux fait. Puis tu sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans ce film-là, qui se passent à cause de Dark Knight, puis que de Dark Knight a changé comme comment on fait les blockbusters maintenant et comment on s'approche aux super-héros maintenant. Tu sais, c'est incontournable. Fait que même si c'est pas mon préféré, faut comme que je mette par respect Dark Knight en haut, mais je pense qu'en deuxième, je mettrais The Batman parce que c'est un film où Batman est le personnage principal, puis où ce qu'il fait assez de Batman 101, toutes les affaires que je veux voir Batman faire, des trucs de cinéma que j'aime, puis aussi beaucoup d'inspiration d'une bonne variété de comics aussi que j'aime qui sont dedans. Puis de versions d'artistes que j'aime qui sont dedans, puis que c'est la relation avec Catwoman aussi est vraiment forte. Puis après ça, je pense que je devrais mettre probablement Batman Returns parce que je pense qu'il faut mettre un des Burton dans le mix. Puis plus que je l'ai regardé avec les années Batman Returns, je l'ai apprécié plus. Parce qu'il est vraiment plus le fun et plus weirdo. Et après ça, probablement, je mettrais Batman 66 de Adam West parce que ça, c'est comme juste le total package qui est drôle. Tous les méchants sont dedans. Some days, you just can't get rid of a bomb. C'est fucking magique.
Mais juste les méchants qui se déshydratent.
c'est de toute beauté. Puis j'ai tout de même, malgré beaucoup de ses défauts, une place dans mon cœur pour Batman Forever. Je pense que Schumacher, il était comme avec un meilleur script plus tête. Là, mettons, t'aurais pogné les writers de Batman Animated, puis tu leur donnes une semaine là-dessus. Là, puis pour juste réécrire certaines affaires, le film pourrait être comme un film d'action-aventure vraiment le fun avec cette facture visuelle-là qui est totalement folle. Je pense que ça aurait été vraiment cool. J'aime encore la facture visuelle de ce film-là tout de même, là, même si c'est très coco banane.
Ouais, ben moi, je pense que mon preuve de celui-là, c'est quand même Batman et Robin. Mais ça, c'est, je veux dire, j'avais genre un an qui était sorti Batman et Robin, puis c'est comme un des Batman que j'avais en cassette. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, je sais qu'il est à chier, Batman et Robin, mais j'ai un genre d'attachement weird émotionnel avec. Ou ce que fucking Robin qui est comme gelé sur une fusée qui monte dans le ciel, fucking fantastique. Le début avec le hockey sur la glace, fucking fantastique. Fait que, ouais, ben moi aussi, de Batman, je le placerais quand même haut. Je trouve que Looking Back, là, je veux pas faire la style d'affaire de finalement, ces films-là étaient à chier. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'ils sont bons, mais ils sont à chier. Ou, ben là, il y a aussi un genre de mode récente dans le monde du cinéma, c'est de réhabiliter toutes les pires affaires. Comme si tout ce que 5 ans et plus est rendu, genre, la meilleure affaire sur la Terre, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est avec Spider-Man, c'est ça qui est arrivé, mais en tout cas. Mais les films de Nolan, j'y aime encore vraiment beaucoup. Je dois dire, par exemple, il y a une froideur dans Nolan qui est quand même très. Que tu sais, je me suis mis à avoir une genre de résistance à ça ou un genre de. Pas un dédain, là, ou whatever, sauf que
tu sais. C'est quelque chose que peut-être qu'à un moment donné, tu réalises quand c'est là, t'aimerais ça que ce chaleur-là soit dedans. C'est comme pas vraiment. C'est pas la faute du film, mais t'es comme ah, ça rajouterait pas mal.
Ben, c'est que en ayant vu plus d'affaires de Nolan, puis en connaissant les Nolanisms, t'es vraiment plus capable de les sentir quand tu réécoutes The Dark Knight. Puis Batman Begins, puis The Dark Knight Rises. Mais je les aime encore vraiment beaucoup. Moi, j'ai hâte de réécouter les deux. Puis parce que ça, normalement, j'aurais dû réécouter d'autres films de Batman juste pour savoir où il se trouvait dans mes patentes. Mais ça ressemblerait probablement à ton top, là, moi, de mettre de Batman pas loin des films de Nolan en haut. Après, de mettre probablement. Je pense que Batman Adam West clenche peut-être les Batman de Burton dans ma tête.
C'est puis, correct, pas de jugement, ça.
Puis après, c'est ça, le Batman de Burton. Puis très loin en bas, la version de Batman de... Je veux dire, visuellement, la version de Batman de Zack Snyder est quand même cool. Il y a des affaires cool dans ce Batman-là, mais pour un Batman qui se dit comme stylisé puis genre, tu sais, cartoony, là, mille fois mieux de Batman. Là.
Ouais.
Fait que c'est là-dessus que je finirais ça, moi aussi.
Ben, je vais terminer ça très bientôt, mais je veux juste dire que j'aime techniquement, j'aime beaucoup, c'est ton voyeur de vue, là, on aime Ben Affleck. Big Ben, on est des grands fans. Il y a plein de films de Ben Affleck qui vont sortir, puis je vais attendre qu'Alex revienne pour qu'on en parle, parce que c'est son juste droit. Mais moi, j'aime la notion de Ben Affleck en Batman, puis je trouve qu'il n'a vraiment pas été bien servi par les films.
Fucking pas, là.
Puis, tu sais, moi, là, mon film idéal de Batman, c'est un film de Bat-famille où les Nightwing puis les Robin sont soit, tu sais, qui quittent le nid puis qui où ils reviennent, puis là il est comme désemparé avec ça, puis tu sais Catwoman est là, puis c'est Jennifer Lopez qui joue Catwoman, puis qu'ils ont une chimie incroyable, puis ça serait un genre de film de un peu comme The Town, mais un peu The Town pour toute la famille, mettons. Là.
The Bat Town.
The Bat Town. Là. Ça serait ça que j'aimerais. Mais bref, là-dessus, on va arrêter mon fanfiction. William, les gens qui veulent te suivre sur Internet, voir tes opinions sur le cinéma et autres, ils trouvent où?
Je dis plus tant d'opinions sur le cinéma que ça en public. Mais j'ai un compte Letterboxd. Je ne sais plus ce qu'est mon handle Letterboxd. Fait que, en tout cas, sur Letterboxd, à Twill, sûrement _Barbo. Sinon, je suis sur Twitter au même handle. Puis je suis sur Instagram, mais sur Instagram, c'est plus des photos de bouffe. Fait que voilà.
Oui, oui, tu fais de la très belle cuisine. Pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Letterboxd, sur Twitter, sur Instagram. Et là-dessus, on vous invite à aller voir des vues.